Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
De livre en livre, Jean Clerc, notre invité, membre de l'Académie française depuis 2008, s'en prend à l'actuelle décomposition de la culture visuelle, les anciens beaux-arts. Depuis La Pissotière de Marcel Duchamp, 1917, une certaine conception artistique classique semble avoir éclaté. Nous avons quitté l'œuvre pour l'objet brut, le symbolique pour le réel écrasé sur lui-même, la représentation pour l'attitude, le goût du monde pour la jouissance de l'immonde. La peinture, accrochée au mur, a été remplacée par des installations à même le sol. D'où vient cette barbarie? De l'extérieur de l'art? Non. De l'intérieur. De ceux-là même qui sont censés être les dépositaires d'un héritage artistique. L'art, en devenant contemporain, n'a pas explosé, mais implosé, et ce, sous l'effet de ces barbares de la civilisation dont parlait déjà Chateaubriand. Jean Clerc dénonce donc, et je le cite, « cette engeance prétentieuse et subventionnée qui, en moins de 20 ans, a réduit la culture à rien ». Il assiste, non sans fureur et stupéfaction, à cette auto-dislocation de la culture, je le cite toujours, « atomisée, pulvérisée, éclatée, explosée, la culture ne cesse de retomber en cotillons et confetti. » Toute sa vie, il a été conservateur des musées de France, au musée d'art moderne, puis au centre Pompidou, et pour finir, au musée Picasso. Il a donc vu de l'intérieur, d'une part, la montée en puissance des animateurs culturels et autres agents de promotion du culturel, et d'autre part, les expositions, en particulier au château de Versailles, de Jeff Koons et de ses lapins kitsch, et de Murakami et de ses mangas tout aussi kitsch. Après son livre précédent, donc « L'hiver de la culture », il nous revient avec « Hubris », avec comme sous-titre « La fabrication du monstre dans l'art moderne ». Jean Clerc, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir sur les studios.
Merci de votre invitation.
De l'Académie. Avant d'en venir à votre livre, dites-nous pourquoi ce processus de déculturation que vous décrivez de livre en livre est grave. S'agit-il pour vous d'une vaste blague prise au sérieux par des incultes ou d'une véritable révolution anthropologique, et si oui, laquelle?
C'est une vaste question. Je me permettrai de revenir sur deux mots que vous avez prononcés. Ce n'est pas la fabrication du monstre, c'est la fabrique du monstre. C'est évidemment oui. Au sens de l'italien « fabrica ». Et c'est une allusion, bien évidemment, au fameux livre de Vézal au début de la Renaissance qui donne la description la plus fidèle possible qui soit dans l'état de la science de son époque de ce qu'est un organisme humain, un corps, une anatomie, et qui déjà n'a plus grand-chose à voir avec l'opacité dans laquelle le corps humain était plongé. Donc il y a une histoire du corps, et s'il y a une histoire du corps et de sa fabrique au sens latin ou italien, fabrica, c'est donc qu'il y a aussi une histoire de la peinture qui connaît un début, une origine, un développement et peut-être aujourd'hui une fin sous la forme que l'on connaît. Voilà, donc ce n'est pas uniquement un cataclysme qui surviendrait inopinément, c'est la conclusion provisoire peut-être d'une très longue histoire des formes et en particulier du rapport au corps. Et à propos de ce rapport au corps, vous parlez de Marcel Duchamp, il se trouve que on m'a confié effectivement la première rétrospective de Marcel Duchamp à l'ouverture du Centre Pompidou en 1977. C'était une espèce de manifeste du Centre Pompidou en faveur de l'art moderne et contemporain. Et c'était un peu étonnant, évidemment, qu'on me l'eût confié. Par ailleurs, j'ai été directeur du musée Picasso pendant 18 ans. Donc, si vous voulez, les deux artistes, ce dont je me suis le plus occupé dans mon travail d'historien, c'est Marcel Duchamp et Picasso. Autrement dit, ce que l'on pourrait croire être deux acteurs fondamentaux, essentiels, de ce que Baudelaire appelait la décrépitude de l'art à propos de Manet, premier des modernes. En fait, ça montre aussi en même temps la complexité, la difficulté, et certainement pas la liberté de condamner comme un censeur des mœurs de son époque. En particulier, je conserve à Duchamp toute mon admiration, je considère que c'est un des hommes les plus intelligents qui ait jamais existé. Et même la pissotière, je suis en train actuellement de retravailler sur cet étrange objet qui ne s'est jamais appelé pissotière, qui s'est appelé fontaine, qui est basculé à 90 degrés avec tout un symbolisme par derrière sur le symbolisme, sur le corps, en particulier le corps féminin, qui est quand même très très étonnant. Et malheureusement, ceux qui se réclament aujourd'hui de Duchamp n'ont jamais compris tout à fait cet arrière-fond symbolique, allégorique, symboliste aussi et décadent, qui font que Duchamp est un personnage exceptionnel à l'entrée d'un long processus dont il avait deviné déjà les effets dévastateurs, où l'art ne serait plus qu'un phénomène de marché d'une mauvaise rhétorique que l'on ferait tout autour. Quant à Picasso, en dehors de l'extraordinaire manipulateur de formes qu'il a été, il y a eu un article autrefois d'Angé Caillot qui s'appelait « Picasso, le grand liquidateur ». Effectivement, un grand liquidateur, mais en même temps un liquidateur bien évidemment de génie, capable d'embrasser, à tenir à bras-le-corps le corps entier de la peinture, ancienne et moderne, et en même temps capable, lorsque cette frénésie de détruire ne l'habitait pas, ne le submergeait pas, capable de réaliser une œuvre d'un classicisme et d'une pureté égale à celle de Dingres, par exemple, ou de Raphaël, dont il se réclamait. Donc voilà, tout ça est extrêmement compliqué. Et pour dire que cette histoire de la représentation du corps dans l'art moderne et contemporain, en le faisant partir de, je ne sais pas, moi je le fais partir en gros de 1880-90, pour des raisons dont je m'explique, n'est pas un champ de ruines. C'est un territoire perpétuellement traversé de montées au créneau et d'enfouissement dans les tranchées, puis à nouveau de conquêtes extraordinaires, puis à nouveau de découvertes de charniers, si vous voulez. Donc tout, c'est très compliqué. Mais je ne me hasarderai pas à dire tout ça est épouvantable, nous vivons la fin d'une époque, nous sommes les derniers des, ainsi de suite, c'est le triomphe des barbares. Non, c'est heureusement beaucoup plus compliqué. Bien évidemment, on y reviendra peut-être. Dans cette mêlée furieuse, mon admiration va à un certain nombre d'artistes, pour certains encore toujours vivants, bien heureusement, avec lesquels j'éprouve la même joie, si vous voulez, visuelle que j'éprouve vis-à-vis des grands artistes du passé.
Alors pour le dire autrement, vous insistez dans ce dernier livre, La fabrique donc du monstre dans l'art moderne, vous avez cette phrase qui est ô combien essentielle, et vous dites, je vous cite, « Le monde existe tant que je le tiens sous mon regard et que je n'oublie pas de le retourner vers lui. » Pourquoi, à votre avis, est-ce important de regarder le monde, d'avoir un regard porté sur le monde? Et vous en revenez dans le livre à l'étymologie de regarder, de garder, d'être
sous la garde,
une vigilance, d'être sous la garde. Pourquoi est-ce que le regard, et le regard artistique tel qu'il est donné effectivement par les artistes, est une chose ô combien essentielle pour être dans le monde?
Là aussi, c'est une question difficile. Comment dire? C'est d'abord une particularité de l'art occidental, dans la tradition d'Athènes à Rome, pendant la lumière portée d'une religion qui est essentiellement le christianisme. On ne pourrait pas écrire cette histoire-là, ni dans le monde de l'islam, ni dans le monde du judaïsme, puisqu'il y a un interdit porté sur la représentation, non pas du visible, parce qu'on peut très bien représenter des fleurs, on peut représenter tout ce qui est inanimé, on ne peut pas représenter ce qui est animé, c'est-à-dire les animaux et l'homme, d'abord l'homme. Par conséquent, ce tabou porté sur la représentation de l'être humain par excellence et du corps par excellence est chargé d'une force incroyable qui explique aujourd'hui, par exemple, la totale incompréhension de nous autres occidentaux face à des réactions islamiques, face à des représentations jugées caricaturales de leurs prophètes. On oublie, ce faisant, et dans cette indignation un peu trop vertueuse à mon sens, et surtout peu fondée, qu'après tout, l'art occidental, disons l'art grec, l'art et ensuite Rome, et ensuite l'Europe chrétienne, est aussi fondée sur un tabou extraordinairement puissant, qui est le fait que l'on ne peut pas regarder quelqu'un les yeux dans les yeux, que le vis-à-vis est une menace, et que cette menace, il faut d'abord l'affronter. C'est le mythe de Méduse, c'est le mythe de Gorgo, c'est le mythe du totalement différent, du tout autre, de l'altérité radicale, que représentent des puissances comme Gorgo ou comme Dionysos, qui sont des puissances de mort. Et par conséquent, commencer à peindre, commencer à dessiner, commencer à garder le monde, ou regarder le monde, sauvegarder le monde, c'est d'abord affronter cette puissance de mort qui est la puissance de Méduse, de Gorgo. C'est seulement une fois qu'on a coupé la tête de Méduse que l'on peut accepter d'oser regarder la tête de son voisin de l'autre côté de la table et d'essayer de le représenter. De ce point de vue-là, si vous voulez, la réflexion que j'entame dans Hubris, que je continue dans Hubris, c'est la suite de ce que j'avais entamé avec ce livre sur Méduse et toute la réflexion autour de la guillotine pour aller très très vite. Brusquement, à la fin des Lumières, à l'aube des temps contemporains, la guillotine est une mise en action d'une Méduse d'une gorgone infiniment plus terrifiante encore que la méduse de la mythologie antique. Et c'est à ce moment-là, effectivement, c'est ce que j'avance très brièvement, l'art du portrait, la représentation du corps, la représentation de la tête en particulier, du visage, est mis dans un péril tel que ça entraîne une énorme confusion dans l'ordre de la représentation qui, au fond, sera le désordre et la confusion et l'errance de l'art dit moderne et contemporain.
Donc vous dites qu'il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, comme une vocation du peintre dans le prolongement de cette peur du regard direct, et donc le peintre serait celui qui regarde un peu par le reflet du glaive, enfin,
oui, pour par approcher. Une prothèse, oui, une voilà. Prothèse qui est le tableau, qui est le dessin, voilà. Qui est le passage par une instrumentation.
Mais donc pour voir ce qui ne peut pas être vu, d'une part, et deuxièmement, vous dites qu'il y a une spécificité, c'est ça, du regard occidental chrétien, enfin, pour
c'est
le dire,
oui, oui.
Qui effectivement se permet, s'autorise la représentation du visible, de la chair, du visage, de la personne, de tout ce qui est animé.
Oui, c'est ça ? Et plus généralement du monde, évidemment, et de toutes les essences créées par Dieu, nommées par Dieu. Donc là, c'est vraiment une tâche, me semble-t-il, de plus en plus, qui a été celle de notre culture. Dans cette tâche, bien sûr, le peintre, l'artiste occupe une position centrale, et je ne pense pas qu'il y ait eu une autre culture dans le monde aussi attachée au plaisir sensible et sensuel que celle du monde qui va d'Athènes à Rome et à nous. Et en même temps, ce trésor extraordinaire, bien sûr, amassé par les siècles, et dont on a un des plus beaux exemples de l'autre côté de cette fenêtre, avec les 65 000 mètres carrés du Louvre et les cent dizaines de milliers de chefs-d'œuvre entassés dans cet extraordinaire palais, avec l'embarras de plus en plus grand de dire « mais au fond, pourquoi ? Dans quel but ?» Ces œuvres ont été faites à leur époque dans une finalité précise. Il est évident que l'apparence de finalité que l'on nous propose dans le cadre des musées n'est qu'une apparence, qu'au fond, on ne sait plus très bien pourquoi on y vient et qu'est-ce que l'on regarde exactement, en ayant totalement perdu le sens primitif du péril que cela représente d'oser regarder, d'oser représenter le monde, et en particulier le visage.
Pour en terminer sur ma première question, donc on a bien compris que vous n'êtes pas, effectivement, ça ne serait une caricature de vos livres et de votre travail que de vous imaginer en dénonciateur absolu de l'art contemporain et dans tout ce qu'il peut avoir de barbare. Et effectivement, il y a toujours, pour reprendre votre expression, cette mêlée furieuse et donc le bon grain et l'ivraie qui est effectivement mêlé. Mais à votre avis, ce que vous critiquez, ce que vous pointez du doigt, cette dégradation d'une partie de cet art contemporain, en quoi a-t-il un effet barbare, pour le dire simplement, ou de décivilisation, ou qu'est-ce que ça change si effectivement, sous le regard, nous avons des installations, pour le dire simplement, sans, ou du Murakami ou du Jeff Koons,
oui.
Et qui effectivement, qu'est-ce que ça change pour nous dans l'idée que nous nous faisons du monde ?
J'ai abordé cette histoire de la genèse du monstre en essayant de démonter la genèse de ce monstre, qui est aussi une chose admirable hein, étymologiquement, une chose extra unique, étonnante, qui est un monstre. En essayant de démontrer la spécificité de cette monstruosité dans l'art moderne et contemporain. Après tout, le monstre existe à toutes les époques, surgit à toutes les époques. À certaines époques, il se multiplie, il prolifère, il croît, il a tendance à occuper le devant de la scène. À d'autres époques, il disparaît et n'est plus qu'un surgissement très épisodique et sans grandes conséquences. Donc j'ai essayé de montrer cette chronologie en quelque sorte et surtout de montrer qu'à un certain moment, le statut du monstre change complètement et par conséquent entraîne aussi un changement radical de l'attitude de l'artiste face au monstrueux. Je dis en gros, plus ou moins arbitraire, qu'une certaine année 1895, où il y a une telle accumulation de changements techniques, de découvertes scientifiques et de changements techniques au sens d'appréhension du monde par les instruments, que l'artiste tombe dans un désarroi profond faute en étant privé des moyens, de toute cette prothèse qu'on évoquait à propos du regard de Méduse, tout cet artifice de bouclier, d'épée qui permet d'affronter la réalité par une espèce de détour, le détour étant l'œuvre d'art. Et là, dans ce désarroi, alors que la science, elle va s'avancer de plus en plus d'un pas très affirmé dans la maîtrise d'un monde qui est de moins en moins visible et de plus en plus invisible, l'artiste, lui, va être rejeté dans les ténèbres, lui qui croyait jusque-là être une espèce de compagnon de route des savants, puisque je rappelle que l'anatomie, les théâtres d'anatomie étaient jusqu'au XVIIIe, jusqu'aux Lumières, étaient indifféremment fréquentés par des scientifiques, par des médecins et par des peintres. À partir du moment où ce compagnonnage ne peut plus exister, Le scientifique, le médecin, le biologiste assurent d'une marche de plus en plus ferme la prise en compte de la réalité visible et invisible. L'artiste, lui, est rejeté dans les ténèbres et le statut du monstre, à ce moment-là, change radicalement pour l'un et pour l'autre. Pour le savant, le monstre qui jusque-là faisait partie des cabinets de curiosité, surgissement inopiné et inattendu d'un écart par rapport à la règle, au contraire, à partir de ce moment-là, à partir du moment où les instruments existent, la démarche scientifique existe, le monstre devient partie d'une explication générale de la normalité. On peut expliquer la normalité grâce à l'apparition du monstre et par des procédures extrêmement précises. Au contraire, chez l'artiste, le monstre aura de plus en plus tendance à être la production même de son effort et de sa démarche, mais dans une totale errance, dans un vagabondage extravagant qui va le condamner d'abord à la solitude. Les confréries, les académies n'existent plus, les confréries n'existent plus, les guildes n'existent plus. Il est seul dans son atelier et seul face à un public de plus en plus indifférent ou hostile à ce qu'il fait. Donc, il est rejeté dans le monde du monstre alors que le scientifique, lui, le maîtrise de plus en plus et n'en fait qu'un cas occasionnel de la normalité.
C'est-à-dire que, pour nos auditeurs, donc vous expliquez dans ce livre-là qu'en 1895, donc vous avez cité cette date-là, quatre éléments au moins sont pointés par vous comme étant des éléments essentiels. 1895, naissance du cinéma par la lumière, 1895, invention du rayon X, 1895, Marconi découvre
la radiotéléphonie,
la radiotéléphonie, et 1895, enfin, Freud commence à inventer effectivement cette psychanalyse. Donc est-ce que l'idée de la psychanalyse et donc la pratique, est-ce que cela veut dire qu'effectivement il y a, c'est ce que vous dites, un mystère du corps humain qui semble effectivement échapper ou qui semble disparaître parce que nous avons maintenant tous les moyens à partir de ce moment-là de percer le mystère du corps et donc que d'une certaine façon, il ne reste plus à l'artiste qu'à percer un autre mystère qui est celui de l'anormalité, donc du monstrueux, ce qui effectivement n'est plus à portée de la science.
Oui, c'est ça. Sauf que c'est le scientifique qui va percer l'apostrophe, l'anormalité, et l'artiste au contraire va s'y livrer sans pudeur. Faute de pouvoir, avec ses propres moyens à lui, avec ses propres instruments, le saisir et moins encore le comprendre. Je donne deux exemples. Vous parlez des rayons X. Il y a une phrase très étonnante d'Apollinaire qui après avoir été trépané après la première guerre, à l'issue de la première guerre, voit sa tête au rayon X, donc il voit sa tête réduite à un crâne, comme dans le Golgotha, comme dans le Calvarium antique, et il est stupéfait. Et sa stupéfaction s'exprime par le fait que comment est-ce que la poésie désormais va pouvoir prendre en compte une telle vision qui n'est plus celle du calvarium antique, bien évidemment, qui est totalement démystifiée. Mais encore, comment moi vais-je pouvoir parler de la mort quand je vois mon crâne réduit à une espèce d'ossement bizarre? Et c'est la même réflexion qu'on trouve un petit peu après, évidemment, dans la montagne magique de Thomas Mann, lorsque Castorp, son héros, voit la plaque de verre sur laquelle a été imprimé les poumons de sa chère Claudia Chauchat. En disant, au fond, cette femme que j'aime tellement, j'envoie ici la photographie au rayon X, et il plonge dans une espèce de mélancolie très profonde, et en même temps qu'il y a ce désarroi vis-à-vis des nouvelles images du corps que l'art ne peut plus prendre en compte, la sensibilité ne peut plus prendre en compte dans cette immense démystification qui s'amorce, en même temps, dans cette même montagne magique, le Berghof, qui est le nom de la clinique, on a oublié, dans laquelle se passe toute l'action, le soir même, après l'exercice des savants appareillages techniques, parmi lesquels les rayons X, vous avez un disciple de Freud, Krokowski, qui fait parler les morts et qui fait tourner les tables. Et tout le monde est là pour l'écouter. Et là encore, c'est un immense domaine qui apparaît simultanément avec les découvertes scientifiques et techniques. Et ce sont en général les mêmes savants qui découvrent à la fois les rayons X et qui croient au rayonnement occulte. Et face à cette intrusion de l'occulte, l'artiste est encore beaucoup plus désemparé puisqu'il est, dans un cas comme dans l'autre, confronté à quelque chose qui ne se voit pas et qui pourtant existe et sur une échelle infiniment plus grande que l'échelle des radiations du monde visible. Et je crois que c'est dans cette espèce, encore une fois, de désarroi absolu des techniques de l'artiste que peuvent proliférer ces tentatives à la fois désespérées qui se cachent sous le masque de la d'un certain triomphalisme, d'un certain, en même temps en tout cas d'une hypertrophie du moi de l'artiste ou du génie de l'artiste, capable à lui tout seul et en dehors de toute règle de continuer à affronter la réalité ou ce qui reste de la réalité visible.
Je voudrais vous livrer le constat que vous faites et que Milan Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être fait lui aussi, quand il dit, ou il fait parler un de ses personnages qui dit cela, « Aujourd'hui, le corps a cessé d'être un mystère, ce qui cogne dans la poitrine, c'est le cœur, on le sait, et le nez n'est que l'extrémité d'un tuyau qui saillit du corps pour mener l'oxygène aux poumons. Et il finit ce texte en disant « Depuis que l'homme peut nommer toutes les parties du corps, le corps l'inquiète moins. Chacun sait aussi désormais que l'âme n'est que l'activité de la matière grise du cerveau. » Est-ce que ça veut dire qu'il importe qu'il y ait un mystère et que l'artiste est là pour percer l'idée qu'il se fait du corps comme mystère, ou est-ce que cela veut dire que le progrès, 1895, le scientisme, est cette idée idéologique qui a peut-être colonisé pour partie la tête des artistes, selon laquelle on va réussir à réduire l'âme à simplement un amas de matière grise?
Encore une fois, je crois que ce qui domine la démarche de l'artiste à ce moment-là, ce n'est pas la croyance en un corps automate, en un corps mécanisé, technicisé, c'est de dire au-delà de cela, il existe effectivement une réalité infiniment plus vaste, mais qui n'est plus une réalité d'adhésion, si je puis dire, visuelle ou sentimentale, puisque celle-ci a été réduite à des données, à des chiffres, à des diagrammes, à des photographies, à des papillotements lumineux, comme dans le cinéma. Il n'y a pas de réalité, c'est... ou à des voix désincarnées avec le téléphone. Donc tout le monde, autrefois visible, accueillant et chaleureux, et comme un nid qui est celui du visible, tout ce monde-là n'existe plus. Qu'est-ce qui reste? Il reste la révolte contre cette condition nouvelle, qui va s'exprimer évidemment après la boucherie de la Première Guerre, dans des mouvements anarchistes, terroristes, nihilistes, vastes, soit... dans des expériences, soit dans l'exaltation des utopies sociales, à défaut d'une religion révélée, à défaut de pouvoir exalter encore la création telle qu'elle existe, les petits oiseaux, les fleurs, la beauté des femmes. Exaltons l'image d'un monde futur, ce sera tout le développement du réalisme dit socialiste, beaucoup plus tard, qu'à nouveau une iconographie extrêmement précise, extrêmement détaillée, extrêmement imposée, ou plus imposante encore et plus précise encore que l'iconographie, je ne sais pas quoi, moi, de l'Assomption de la Vierge, ou de la mise en croix, dans les croyances précédentes. Ou alors, ce qui sera tout de même le cas majeur, le plus souvent fréquenté, l'aventure singulière et tellement idiosyncratique qu'on ne peut même pas la décrire, qui sera celle de ces artistes désormais extraordinairement... seuls, extraordinairement livrés à leur solitude et à leur au culte d'un moi lui-même devenu insaisissable, qui sera l'aventure de tous les mouvements ou de toutes les singularités sous lesquelles se ramasse l'art moderne et contemporain. Encore une fois, dans l'abandon définitif, semble-t-il, des académies, des écoles, des groupes, des manifestes, avec de plus en plus une espèce de lutte qui aboutit à ce que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un artiste est d'abord celui qui cherche un marché, qui cherche des clients, qui cherche une stratégie économique et commerciale qui n'a évidemment plus grand-chose à voir avec la pratique des anciens ateliers.
Alors, pour reprendre cette question autrement, donc vous avez montré dans un livre plus ancien, donc qui s'appelle « De Mundo », qu'effectivement, l'art contemporain, ou pour le dire autrement, une partie de l'art contemporain, s'est intéressée beaucoup au sang, à l'urine, aux excréments, etc. Bon, d'une part... Et deuxièmement, donc là, dans Hubris, donc la fabrique du monstre, il y a cet intérêt que vous mettez en évidence sur effectivement le monstrueux, voilà, cette fabrique du monstre. Alors, il y a un chapitre dans Hubris qui m'a particulièrement intéressé, autant que les autres, mais qui concerne la particularité de la situation en France. Donc, vous avez un chapitre sur la guillotine, la Révolution française, et donc tout le monde sait que vous admirez ceux des peintres, en particulier anglais, Bacon, Freud, qui sont restés fidèles à cette figuration, à cette représentation du corps, contrairement à ce que vous avez constaté et ce que vous dénoncez dans la tradition, enfin, ou dans ce qui s'est passé en France. Et vous indiquez, en partant donc d'un tableau de Balthus, que pour vous, il y aurait comme un lien entre la décapitation du roi et puis quelque chose qui se serait perdu dans la figuration. Alors ma question est la suivante, c'est... Est-ce que, d'une certaine façon, l'art moderne en France a perdu la tête quand le roi lui-même l'a perdu au moment de la Révolution française?
Oui, c'est un raccourci, si j'ose dire, tellement saisissant qu'on me le reprochera sans doute à juste titre, rappelant la théorie de Kantorowicz sur le double corps du roi.
Oui.
Et à partir du moment où, effectivement, on coupe la tête du roi comme acte fondateur de la nouvelle société, on entraîne beaucoup plus qu'un bouleversement dans l'ordre social. C'est un bouleversement d'ordre symbolique qui va peser sur toutes les générations suivantes, et particulièrement en France. Si vous voulez, il y a cette étonnante action, ce geste étonnant de décapiter un roi, qui est quand même une chose assez rare dans la vie des peuples, se fonde aussi sur une longue histoire, mais ça nous entraînerait peut-être trop loin, de la notion d'individu dans la société contemporaine. Et en particulier à ces réflexions de D'Alembert rapportées par Diderot dans le Songe de D'Alembert, disant l'individu n'existe pas, l'individu n'existe plus. Il n'existe plus qu'une masse indifférenciée dans laquelle on peut trancher à loisir, puisque l'individu, au sens propre, ce qui ne peut pas être divisé, dividu, est une fiction. À partir du moment où ça devient une masse indifférenciée d'individus interchangeables, la métaphore est celle du polypier, ou de l'hydre, si vous voulez, qui repousse là où on l'a tranché. Et cette imagination, cette fantasmagorie, qui remonte peut-être au Léviathan de Hobbes, je ne sais pas, enfin, il y a toute une histoire là que je connais trop mal pour pouvoir la résumer en quelques mots, c'est cette histoire-là, en tout cas propre à une certaine tradition philosophique française, qui va amener l'idée qu'après tout, le roi lui-même, on peut le diviser, le divider, si vous voulez, puisque ça n'est même plus un individu, c'est un corps parmi d'autres corps, avec des conséquences qui vont être, me semble-t-il, en France particulièrement, je n'ose pas dire désastreuses, non, c'est pas ça. Il va y avoir un art français magnifique, moderne et contemporain, mais qui en général va effectivement se détourner de la représentation du visage, où lorsqu'il y a le visage, le représentera surtout sous une forme, oui, monstrueuse, effrayante, jusqu'au moment où cette élimination, cette déformation, ce dévisagement, au sens fort du terme, va peu à peu conduire, dans l'époque actuelle, à la préférence pour des éléments organiques beaucoup moins nobles que le visage, qui sont les excréments du corps. Bon, je résume ça vraiment à très très grand trait, mais en gros c'est ça. Mais ce qui m'a toujours frappé, effectivement, c'est en tout cas une certaine désinvolture, là aussi au sens propre du terme, un dévisagement de la peinture française, sauf chez quelques individus, qui contraste avec le fait que dans d'autres cultures et dans d'autres pays, le visage va rester un pilier. Mais je ne voudrais pas opposer un pays à un autre, c'est quelque chose d'autre. Enfin, le fait est que l'Allemagne va, dans les années 20 et 30, va continuer de représenter des visages, torturés, mais des visages, beaucoup de visages, une obsession du visage, mais qui tient peut-être au fait que l'Allemagne, dans les années 30, traverse une phase politique tragique, alors que la France, elle, se livre encore aux joies et aux divertissements d'une après-belle époque. Donc, on peut difficilement trouver en France l'équivalent de ce qu'a été l'art du portrait, comme chez Beckmann, chez Autodix, ou chez Gross, ou chez des peintres comme ça. En France, vous avez Picasso, mais enfin, Picasso perpétuellement oscille entre le jeu formel liquidateur, comme disait Caillois, et puis de temps en temps un retour presque nostalgique à des constructions solides et fermes qui le font comparer à ce moment-là à Raphaël. Mais c'est un peu une exception. Ou alors, en Angleterre, après la guerre, vous avez effectivement un retour du visage et du portrait très saisissant qui se fait autour de Bacon et avec des gens comme Freud. Et non, Freud aujourd'hui est évidemment le représentant le plus éminent. Et là aussi, j'ai peut-être allé trop loin, mais toute cette école dite de Londres va se réclamer d'une... C'est difficile à dire là aussi parce qu'on s'engage dans des chemins un peu piégés. Se fait autour d'artistes qui sont d'origine juive et qui vont expressément, explicitement revendiquer leur tradition judaïque normalement aniconique, pour revenir au contraire au visage et dire, après tout, après ce qui s'est passé pendant entre 40 et 44, nous devons retourner à la représentation du visage. Il y a donc là une visée morale, éthique et politique extrêmement puissante, là où la France se livre à la frivolité du paysagisme abstrait, d'un certain plaisir hédoniste qui, au fond, ne la quittera pas. Mais je comprends bien que je dis là des choses un petit peu périlleuses.
Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a bien des contextes politiques où une fréquentation de la barbarie, ce qui était le cas effectivement pour l'expérience allemande, qui effectivement oui. Rejaillit sur la capacité des artistes à pouvoir soit déserter la figuration, soit au contraire, ce que vous disiez à propos de Bacon et de Freud, de vouloir effectivement en revenir à la figuration pour justement revendiquer peut-être sans doute une figuration qui a été méprisée, humiliée, saccagée par les travers de la barbarie politique telle qu'elle s'est développée effectivement en Allemagne au moment de la guerre.
Je pense que c'est une composante effectivement assez essentielle. À condition, si vous voulez, pour mieux la fonder, avec cette autre composante tout de même très importante, c'est que la tradition classique de la norme et de la construction du corps, selon des principes qui n'ont guère changé depuis Polyclète jusqu'à Vitruve, Léonard de Vinci et Houdon, si vous voulez, à l'époque des Lumières, cette règle académique au sens propre qui permet de construire un corps sera prolongée par des régimes qui, eux, sont des régimes totalitaires. C'est essentiellement l'académisme, la peinture officielle du Troisième Reich. C'est l'académisme du modernisme en Italie sous Mussolini. Et c'est évidemment et aussi l'académisme de la peinture soviétique du réalisme socialiste. Et là, si vous voulez, il y a une composante, un aspect qui est totalement dénié dans cet académisme persistant, qui est le fait précisément que les découvertes scientifiques d'une part et les spéculations sur le fonctionnement du cerveau ou sur les humeurs et les passions qui traversent un homme ne peuvent plus être représentées par un corps construit académiquement, sauf à provoquer une immense duperie, les conséquences tragiques qui entourent cette duperie sur le plan social. Et là, en France, si vous voulez, je prends un exemple, je cite l'exemple d'un livre qui s'appelle « La nouvelle anatomie artistique du corps » qui est écrite par Paul Richer, qui était un neurologue et un médecin, si vous voulez, en même temps qui était professeur d'anatomie à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Il écrit ce manuel à l'usage des étudiants à l'École nationale supérieure des beaux-arts, donc des étudiants en art, pour leur apprendre à construire un corps, à dessiner un corps, à faire un corps, dans la bonne tradition, et 1906. L'année suivante, 1907, apparaît un autre livre qui est le premier livre consacré à l'art qu'on appelle aujourd'hui psychopathologique. C'est écrit par un certain Réja, lui aussi médecin, 1907, qui écrit « L'art chez les fous », qui est la première recension curieuse, intéressée, détaillée, des constructions d'imagination plastique produites par les aliénés mentaux. Alors que le livre de Richer n'aura aucun retentissement dans la communauté artistique, le livre de Réja va commencer à mettre en ébullition les consciences des artistes. 1907, c'est la publication de L'art chez les fous. 1907, c'est aussi les Demoiselles d'Avignon de Picasso, qui sont un tableau d'une laideur absolue, des anatomies absolument terrifiantes, de femmes monstrueuses, qui seront d'ailleurs jugées comme telles par les amis même de Picasso, quand ils découvriront le tableau dans son atelier, en disant « Mais tu ne peux pas montrer cela, c'est épouvantable, garde la toile roulée dans le coin de ton atelier, ne la montre jamais. » Et ça, la réaction vient quand même de poètes ou d'écrivains comme André Salmon, par exemple. Donc, si vous voulez, il y a là toute une composante qui intervient dans le développement des formes, qui fait que le manuel d'anatomie savant et classique de Richer, médecin, biologiste et professeur à l'École des Beaux-Arts, va être lu, mais il va être lu par les Italiens sous Mussolini, par les Allemands sous Hitler, et donnera par exemple naissance aux anatomies d'Arnaud Brecker, le fameux sculpteur, ou aux anatomies des athlètes dans la peinture soviétique. Donc bien évidemment, là, il y a quelque chose qui se passe en l'espace de 2-3 ans qui montre bien l'intersécation, les échanges qui se font entre les découvertes scientifiques ou neurologiques ou psychiatriques et l'idée qu'on peut se faire du corps. Donc lorsque le visage revient, lorsque le corps revient chez des gens comme Gross, Dix ou en Angleterre chez Bacon, ce n'est évidemment pas le corps ni le visage harmonieux, lumineux de l'académisme, quand l'académisme avait encore une valeur, était la valeur suprême.
Ben Jean-Clair, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous éclairer comme ça sur l'importance du regard, des images, sur cette modification que nous subissons dans l'art contemporain et à l'importance, effectivement, que vous signalez dans votre dernier livre, Hubris, auquel je renvoie nos auditeurs, donc de cette année 1895 qui, effectivement, a amené toutes ces modifications qui ont fait perdre, comme on l'a dit, au corps tout ou partie de son mystère et que les artistes n'ont effectivement pas pu explorer comme ils l'avaient exploré préalablement. Et donc j'indique à nos auditeurs que nous aurons avec vous un deuxième entretien où vous nous parlerez de cette perte de la culture au profit des cultures, du culturel, de ce qui a grignoté progressivement la notion de culture telle qu'elle se pratiquait autrefois. Et d'autre part, cette perte du sacré. Donc, merci beaucoup pour cet entretien. Et donc, je renvoie nos auditeurs à un second entretien que nous aurons avec vous. Merci.